Voilà, vous vous souvenez dans votre parcours que après le chapitre 13, le chapitre de discours, puisque c'était le discours en parabole, avec au cœur l'invitation à bien entendre et regarder à partir d'un cœur qui ne soit pas endurci. Donc ça, c'était un discours. On avait eu une vaste section de 14 à 17, enfin, avec la fin du chapitre 13, qui était une portion de récit.
Et que dans cette portion, on pouvait identifier des éléments forts dans chacun des chapitres, notamment au chapitre 14 et 15 de partage des pains, important, une thématique qui court encore dans d'autres épisodes avec la Cananéenne, avec leur crainte d'avoir oublié de prendre du pain dans la barque, etc. Donc ça c'était pour les chapitres 14 et 15, avec en 14 l'épisode où Pierre est invité à marcher sur la mer à la rencontre de Jésus, et où est engagée la question de la foi, qui est importante aussi dans tous ces chapitres. Au chapitre 15, donc le second partage des pains aussi, puis toute la discussion sur ce qui rend l'homme impur, qui procède non pas tellement de questions superficielles, mais de ce qui sort du cœur, car du cœur sortent calculs méchants, meurtres, adultères, etc. Puis l'épisode de la Cananéenne, on partage des pains. Alors au chapitre 16, ce qui était décisif, c'était entre autres l'épisode de la confession de foi de Pierre, foi de Christ, le fils du Dieu vivant, et là se jouait un tournant, puisqu'après ça, il y a la première annonce de la passion, et on sent qu'un basculement commence à s'opérer. Pierre, qui s'est vu loué d'avoir reçu cette révélation du Père des cieux, et bien ici, est objet de scandale, c'est-à-dire obstacle pour Jésus sur son chemin. Puis au chapitre 17, l'épisode de la transfiguration, à partir de l'analogie aussi avec celui qui vient d'abord, Élie, qui désigne Jean-Baptiste, au verset 9 à 13, on voit que se glisse en filigrane comme une annonce de la passion résurrection intermédiaire, puisqu'il est question de ne dire à personne la vision avant que le Fils de l'homme se réveille des morts. Donc il va être parmi les morts et s'en réveille. Et puis la fin du chapitre qui continue à porter sur le thème de la foi, pourquoi n'avons-nous pas pu, disent les disciples, guérir le Fils de cet homme qui nous sollicitait, et Jésus leur répond en raison de votre peu de foi au chapitre 20. Et enfin, le dernier passage du chapitre 17 revenait sur de nouveau un dialogue entre Pierre et Jésus à propos de l'impôt à payer au temple, le dithraque. On avait vu dans ces chapitres que la question de la foi est importante, que la figure, l'insistance portée sur la figure de Pierre est récurrente, que la thématique des pains aussi tisse et leitmotiv. Puis nous avions vu le chapitre 18 qui est lui un discours ecclésial ou communautaire. À partir, vous vous en souvenez, de deux questions, une question des disciples, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, et Jésus va les orienter vers l'attention apportée aux plus petits, qui sont précieux pour le Père, qu'il ne faut pas scandaliser, etc. Et puis une seconde question de Pierre qui concerne le pardon. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Alors Jésus, à ces questions, répond par des invitations positives. D'une part, se faire petit et humble comme les enfants, les accueillir, savoir reprendre le frère qui s'égare, cela seul, puis à deux ou trois, ou avec l'Église, savoir pardonner aussi. Donc des invitations à se faire petit, humble, avoir le souci de son frère, lui pardonner, et aussi, à côté des invitations positives, des mises en garde. Éviter précisément de scandaliser, de mépriser un solde, c'est petit, dit Jésus, éviter d'être scandaleux pour soi-même, si ton œil te scandalise, ta main te scandalise, eh bien, arrafler pour mieux que ce soit borgne ou estropié, que tu entres, mais que tu entres dans le royaume de Dieu. Et puis, des mises en garde, éviter de vous conduire comme le débiteur impitoyable de la parabole qui constitue la seconde partie du chapitre 18, cette parabole propre à Matthieu, pour inviter à pardonner à son frère et recevoir du même mouvement le pardon du Père Céleste, verset 35. Vu que les mentions du Père des cieux par quatre fois dans le chapitre sont importantes aussi. Le Père des cieux pour lequel les petits sont précieux, le Père des cieux qui exaucera ceux qui se mettent d'accord à deux ou trois sur la terre pour le prier, le Père céleste qui est prêt à nous pardonner pour autant que nous pardonnions à nos frères de tout notre cœur. C'était un peu le contenu de ce chapitre 18. Alors, cette invitation, pardonner à chacun, à son frère, du fond de son cœur, nous prépare à entendre, alors lorsqu'on va passer maintenant au chapitre 19, à l'ensemble des chapitres 19 à 23, Jésus dénoncer au contraire la dureté de cœur. Donc, 19 à 23, là, nous avons au niveau une section de récit. Avant d'en arriver au dernier grand discours, qui sera le discours eschatologique. Donc nous sommes ici, dans cette section-ci, les chapitres 19 à 23, dont à la fin de la fois passée, j'avais esquissé rapidement quelques lignes. Si je prends les grandes subdivisions de cet ensemble proposé par le Père Robert Marquette, la première est intitulée « Le retournement évangélique » et une manière de retenir les choses, c'est de voir que souvent les choses vont par trois. Je m'explique, vous allez voir. En route vers Jérusalem, Jésus va inviter à des retournements de perspective, au moins par rapport à trois réalités. La question qu'on lui pose sur le mariage, est-il permis de répudier pour n'importe quel motif ? Jésus répond, et va même jusqu'à dire mais ceux qui se font qui ne se marient pas pour le royaume. Donc, retournement de perspective par rapport à ce qui était commun à l'époque dans l'exigence de fidélité dans le mariage, retournement par rapport à l'attachement au bien, c'est l'épisode de l'homme riche qui voudrait suivre Jésus mais qui n'arrive pas à se défaire suffisamment de ses biens à ce moment-là. Et les disciples s'étonnent, comment sera-t-il possible alors à un riche d'entrer dans le royaume ? Tout comme ils s'étaient étonnés à propos du mariage, si telle est la condition de l'homme et de la femme, etc. Et enfin, retournement de perspective, troisièmement, dans la dimension de l'esprit de service, c'est-à-dire plutôt que de vouloir la bonne place, comme demande la mère des fils de Zébédée, eh bien entrer dans une attitude. Celui qui voudra être grand, qui se fasse petit et serviteur de tous. Donc, un triple retournement au niveau de la relation de l'homme et de la femme, quand Jésus ramène à sa fidélité première, l'attachement au bien, qu'il faut pouvoir renoncer pour suivre le Christ, et puis entrer dans l'esprit de service. Alors, ce retournement est illustré au passage par une parabole de retournement, qui est la parabole des ouvriers de la 11e heure, sur laquelle on reviendra. Où le retournement est exprimé de manière concise, le premier devient le dernier, et réciproquement, inversement. Dans la deuxième section, intitulée « La foi au fils de David », Jésus se voit accueilli comme fils de David, au moins à trois moments importants. D'abord par les aveugles, sur le chemin de Jéricho, et puis ensuite, ça va être lors de son entrée à Jérusalem. Donc les aveugles qui sollicitent Jésus, là c'est à la fin du chapitre 20, hein, « Prends pitié de nous, fils de David. » Et puis de nouveau, « Seigneur, prends pitié de nous, fils de David. » Puis Jésus est acclamé lors de l'entrée à Jérusalem dans les mêmes termes, comme fils de David. Là, on est au chapitre 21, au verset 9. Les foules qui crient Hosanna au fils de David. Et puis, lorsque Jésus entre dans le temple, à l'intérieur même du temple, au verset 15, les garçons criant dans le temple et disant Hosanna au fils de David. Donc, la reconnaissance de Jésus comme fils de David par les aveugles, par les foules à l'entrée de Jérusalem et jusque dans le temple. Et l'invitation à la foi, passage avec l'image du figuier. Ce que Jésus fait pour le figuier, il en profite pour dire, eh bien, si vous aviez de la foi, vous feriez bien plus encore. Puis dans la section suivante, la section numérotée 3, est intitulée « La réponse décisive au royaume », qui commence au chapitre 21, le verset 28. On peut retenir comme élément triple le fait qu'il y a trois paraboles. Trois paraboles. La parabole des deux fils appelés à la vigne, et celui qui dit oui d'abord mais fait non, et celui qui dit non d'abord mais finalement va faire oui, hein, si je puis dire, qui est propre à Matthieu, la parabole des deux fils appelés à travailler à la vigne, qui est propre à Matthieu, la parabole des vignerons homicides, donc le maître envoie des serviteurs chercher les fruits de la vigne, et voilà que les serviteurs sont malmenés et ils iront jusqu'à tuer le fils qui leur est envoyé. Et une troisième parabole, la parabole des invités au festin de noces organisé très précisément, nous sommes au début du chapitre 22, par un roi. Et c'est pour les noces de son fils. Là, je suis au chapitre 22, au tout début. Jésus, de nouveau, leur dit en parabole, le royaume des cieux a été assimilé à un homme roi, lequel fit des noces pour son fils, avec à la fin l'ajout, qui est propre à Matthieu, de la question de l'homme qui est entré sans avoir revêtu le vêtement de noces. C'est une note que Matthieu ajoute. Et dans cet ensemble de trois paraboles, à un moment donné, Jésus convoque la citation du psaume 118, on verra, la pierre rejetée est devenue la pierre d'angle, ce qui est encore une annonce en quelque sorte de la passion, mort, résurrection, puisque son rejet, ça va être sa passion, sa mise à mort. Et le fait qu'il devienne pierre d'ancre, ça va être son exaltation dans la gloire. Donc Jésus, ici, à travers notamment la parabole centrale des vignerons homicides, dénonce le refus. Et finalement, il en vient à un avertissement sévère, puisque les vignerons indignes et puis les invités indignes au repas, qui eux aussi ont malmené ceux qui auraient été envoyés pour les inviter aux noces, eh bien seront exclus. Vignerons et invités indignes sont sévèrement avertis. La section suivante, intitulée « Le judaïsme en question », qui commence au chapitre 22 au verset 15, on pourrait voir qu'il y a là un triple piège cette fois-ci, posé à Jésus à travers une sorte de mise à la question de Jésus par des instances différentes. Il y a d'abord la question posée par des disciples des pharisiens et des hérodiens sur l'impôt à César. Et chaque fois, ce sont des questions malveillantes, au sens où elles cherchent à coincer Jésus. Une deuxième question, c'est la des Sadducéens sur la résurrection. Avec l'imagination de cette situation invraisemblable où la femme doit épouser cette Marie et qui meurt sans descendance, et à la résurrection de qui sera-t-elle l'épouse ? Jésus va démonter l'argument et répondre à la question sur la foi en la résurrection. Donc, question sur l'impôt à César, question sur la résurrection, et troisième question, c'est une question des pharisiens, cette fois-ci, sur le plus grand commandement. Et Jésus va répondre par les deux commandements. Et après avoir répondu à ces, trois questions, Jésus va, la section va se terminer par une question que Jésus à son tour pose. Ça sera au verset 41, la fin du chapitre 22. Comme les pharisiens s'étaient assemblés, Jésus les interrogea. C'est lui qui interroge cette fois-ci en disant « Que vous semble-t-il au sujet du Christ? De qui est-il le Fils ?» Il va les faire réfléchir à partir du psaume. On va voir comment il argumente. C'est très bref, mais très fort comme argument. Donc, on a eu trois invitations à un retournement, à trois niveaux. Trois mentions de la reconnaissance de Jésus comme fils de David, trois paraboles, un triple piège, et enfin, dans le chapitre 23, on a des invectives contre les scribes et pharisiens. Au début du chapitre, Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant « Sur le siège de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens, etc. » Alors Jésus va donner un avertissement sévère à ses disciples de se méfier de l'attitude de certains scribes et pharisiens. Il va qualifier d'hypocrites. Alors on pourrait dire qu'il y a un triple reproche qui leur est fait. D'abord, ils manquent d'humilité. Ils imposent aux autres des choses qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes, ils veulent se faire appeler rabbi, docteur, etc. Manque d'humilité. Deuxièmement, ils détournent le sens de la loi, et en ce sens, ils sont hypocrites. Et Jésus, au verset 15 à 22, va donner un exemple de mauvaise interprétation de la loi. De prescription qu'ils donnent. Et enfin, troisième élément, le plus grave, c'est qu'ils sont prêts à aller jusqu'à verser le sang. Verset 34, « Voici, j'envoie auprès de vous des prophètes, des sages, des scribes, parmi eux vous en tuerez et en crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en persécuterez de ville en ville, en vue que vienne sur vous tout sang juste répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, dont vous avez été meurtrier entre le sanctuaire et l'autel du sacrifice. » Donc, ces versets 34-35, je dirais, sont une mise en scène sévère de ce à quoi ils aboutiront, répandre le sang. Et ça annonce une importance accordée par Matthieu dans le récit de la Passion, on le verra sur le thème du sang, qui est annoncé ici avec force dès la fin de ce chapitre 3. Voilà une manière d'essayer de suivre le fil, pas la seule, mais ça peut aider la mémoire que d'avoir cette perspective, de dire ben, il y a des étapes avec chapitre 3. Trois éléments. Alors reprenons, on va avoir ainsi donné quelques balises d'ensemble. Je reprends au fil du texte quelques éléments plus importants. Au chapitre 19, donc, des pharisiens viennent auprès de lui en le tentant et en disant, ça ce sont tous des chapitres où Jésus est mis à l'épreuve et c'est à la faveur de ses réponses qu'il engage à des retournements, des conversions, qu'il donne des paraboles, etc. Les pharisiens vinrent auprès de lui en le tentant et en disant, dis-nous s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour tout motif. C'est le point. Et Jésus, je le rappelais déjà la fois passée, va argumenter à partir de l'écriture. Il remonte à l'écriture les passages de Genèse qui sont antérieurs dans la Bible à ce que invoque, à savoir un passage du Deutéronome, où Moïse a commandé pour répudier sa femme, au moins de lui donner un livret de divorce. Jésus dit, c'est déjà une concession à cause de la dureté de votre cœur, mais par rapport à l'intention antécédente première qui était exprimée dans la Genèse, ce désir qu'a Dieu de voir l'homme s'attacher à sa femme et réciproquement et demeurer fidèle l'un à l'autre. Mais c'est leur dureté de cœur qui a amené Moïse à énoncer au moins cette limitation des dégâts, si je puis dire, un peu familièrement. Ses disciples, alors, chaque fois, face au retournement, je vous ai dit, il y a une réaction un peu d'incompréhension, de perplexité. Eh bien, Jésus en profite pour renchérir, non seulement en maintenant sa position, mais en donnant même de comprendre qu'on peut parfois choisir le célibat si on y est appelé en raison du royaume des cieux, comme il le dit au verset 12. Et là-dessus, on porte à Jésus des petits-enfants. « Ne les empêchez pas de venir à moi, » dit-il à ses disciples, qui les rabrouent, font obstacle, « car à de tels est le royaume des cieux. » On voit que ce thème de l'entrée dans le royaume des cieux va être important. On l'a déjà rencontré, mais il a d'abord été décliné. Certains se sont fait eunuques eux-mêmes en raison du royaume des cieux. Tu comprends ? Comprend qu'ils comprennent, et puis les petits-enfants, à eux, est le royaume des cieux. J'avais signalé que pastoralement, la question des enfants vient dans la foulée de la question sur l'indissolubilité du mariage, peut être importante. C'est-à-dire comprendre qu'un des motifs de demeurer fidèle, malgré parfois les difficultés dans le couple, c'est de prendre en considération aussi le bien des enfants. Ça, c'est pas dit directement dans le texte, mais l'enchaînement permet de faire valoir cela. Puis, deuxième perspective de détachement, c'est l'épisode du jeune homme, de l'homme riche. Un homme venant près de lui, « Maître, que ferais-je de bon afin d'avoir une vie éternelle ?» C'est la question de départ. Et la réponse de Jésus terminera sur cette expression au verset 29. Eh bien, celui qui aura laissé maison, frère, etc., à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera une vie éternelle. Il a bien entendu la question au désir de l'homme. Mais qu'il fasse dire aussi, au passage, en termes d'entrée dans le royaume, verset 23. Un riche entrera malaisément vers le royaume des cieux. Le royaume des cieux comme étant ce lieu de vie éternelle. Maître, que ferais-je de bon ? Il interroge sur une bonne action. Et Jésus le renvoie à la bonté d'une personne. Pourquoi m'interroges-tu au sujet du bon ? Un seul est le bon. Et ici, ça désigne, et c'est au masculin, un seul, ce n'est pas une chose bonne, c'est une personne bonne. Un seul est le bon. Sous-entendu, dans un outil explicite, Dieu seul est bon. Mais on voit que dans la personne de Jésus, c'est la bonté même. Si tu veux entrer, et c'est pour ça qu'il va lui dire, suis-moi. Parce que si tu veux accéder au bon, au bien par excellence, ben suis-moi. Si tu veux entrer dans la vie, les commandements, l'homme le rappelle judicieusement, ajoute de lui-même déjà ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va chercher un passage, vous voyez, qui n'est plus tiré du décalogue, les 10 paroles, qu'on trouve en Exode ou en Deutéronome, mais dans notre livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'homme, Jésus, adjoint ça annonce la réponse qu'il va faire à la question sur le plus grand des commandements, où il répondra ton Dieu, de tout ton cœur, etc. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus ne sépare pas veut manifester que l'amour de Dieu et du prochain vont. Alors l'homme dit, tout ceci j'ai observé, en quoi suis-je encore en retard? Si tu veux être parfait, vous vous souvenez qu'on avait rencontré cet adjectif à la fin, dans le sermon sur la montagne, à la fin de l'invitation à une série de dépassements. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis, non seulement ne tue pas, mais ne nourris pas des sentiments de colère dans ton cœur, etc. Et en 5.48, on avait lu précisément dans le texte, juste avant, il vient dire, si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous en surabondance, les habitants des nations, pas la même chose, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, on a vu là que Jésus entend perfection, à l'image du Père, au sens d'un davantage, d'un plus. Pas simplement se contenter de ne pas transgresser les interdits, mais aller plus loin. Puisqu'il n'a cessé de dire, on vous a dit, et moi je vous dis, non pas pour contredire, mais pour aller plus loin. Et de même ici, il amène l'homme à aller plus loin. Déjà, c'est une très belle chose qu'il a observé les commandements depuis sa venue. Mais si tu veux être parfait, eh bien, en vendant ce qui t'appartient, donne-le, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans les cieux. Et lorsque, alors, on a la réaction de l'homme à ce moment-là, et Jésus en profite pour alors se tourner vers ses disciples. Verset 23, en vérité, je vous le dis, un riche entrera malaisément dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de traverser un chat d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez l'origine de l'image, hein, le chameau, le chat d'aiguille. Il y a une des portes de Jérusalem qui était appelée le chat de l'aiguille parce qu'elle était assez étroite. Et pour qu'un chameau puisse passer, il fallait commencer par le débarrasser de tout son attirail. Enfin, ça c'est pour l'origine de l'expression, mais évidemment qui fait choc à tel point que les disciples disent ils sont fortement stupéfaits, mais alors qui peut être sauvé? Jésus répond, chez les hommes c'est impossible, mais chez Dieu tout est possible. Non pas que Dieu va faire quelque chose à notre place, mais il va nous aider à faire ce qui nous paraît impossible à hauteur humaine. Souvent, vous avez cette mise en relation de ce qui est du ressort de l'homme, qui ou bien est pécheur ou bien est trop faible, et puis ce qui est capable en Dieu. Par exemple, il a dit, en réponse à l'interpellation concernant le mariage, ce que Dieu a conjugué, qu'un homme ne le sépare pas. La volonté, la faiblesse des hommes n'aiment pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ici, si chez les hommes ça paraît impossible, eh bien, chez Dieu, cela devient possible. Alors Pierre répond, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Il a bien compris que c'est une question de suivre Jésus. Jésus l'a dit à l'homme riche. Jésus répond, vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez sur 12 trônes en jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc, une très forte promesse faite à Pierre et aux 12, et puis élargie à toute personne, tout quiconque aura laissé, maison, frère ou sœur, ou père ou mère, ou enfant, ou enfant, à cause de mon nom, c'est toujours l'important, comme dans les en souvenirs, les béatitudes. Hein. Heureux si vous êtes persécuté à cause de moi, à cause de mon nom. Ce n'est pas la souffrance comme telle, mais c'est parce que c'est à cause de Jésus. Et bien recevra un centuple et héritera d'une vie éternelle. Alors là-dessus, la parabole des ouvriers de la 11e heure qui va aussi dans le sens de ce renversement. Alors, si vous voyez comment elle est encadrée, les formules sont mises en majuscule et en italique par le père Hadermacher. Les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Voilà, un renversement. Et puis on a toute la parabole qui est racontée et on termine en prenant la formule des derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Voilà. Donc on a renversé la formule premier, dernier, dernier, premier devient dernier, premier, premier, dernier. Pour plus dire. Mais c'est très construit. Donc c'est comme si le renversement même de la formule initiale dans la formule finale mimait, je dirais, ce retournement assez radical. Enfin, ça, c'est un petit élément de structuration littéraire, mais on voit que Jésus et l'évangéliste sont très précis dans leurs termes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une inclusion, l'encadrement typique d'un passage.
Ça, c'est une inclusion?
Oui, ça, c'est une inclusion typique. Quand on trouve deux éléments assez typiques, et surtout si on ne les trouve que là, au début et à la fin, on peut dire qu'ils contribuent à discerner un ensemble qui forme un tout. Vous vous souvenez, dans le chapitre sur les paraboles, j'avais dit la mise en place au début, on voit la foule sur le rivage, et le terme ne réapparaît que pratiquement à la fin, dans la dernière image, le poisson qui est trié sur le rivage. Et le terme était rare et n'apparaissait que là, dans tous les évangiles de Matthieu, sinon même dans tous les évangiles, je crois, dans tous les évangiles. Ce qui veut dire que là, hein, parce que si c'est par ailleurs un terme qui vient, certes au début et à la fin, mais aussi au tiers, au quart, au cinquième, ça c'est plutôt ce qu'on appelle un leitmotiv, un élément récurrent. Ici c'est une inclusion typique, enfin, en termes de technique, si vous voulez, littéraire. Ceci dit, donc pour l'encadrement, la parabole, vous la connaissez bien, c'est un homme maître de maison, ainsi est-il qualifié, qui sort le matin pour embaucher des ouvriers. Et au verset 8, il est qualifié le seigneur de la vigne. Donc on passe d'un maître de maison à la terminologie du seigneur. Puis on revient au verset 11 à la terminologie du maître de maison. Mais alors, vous connaissez l'histoire. On voit bien que s'ils sont restés désœuvrés, c'est pas par paresse, mais ils répondent même « Personne ne nous a embauchés » et même à la 11e heure, « Partez vous aussi vers la ville. » Or, comme le soir était arrivé, c'est une formule souvent importante, le seigneur de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers, remets-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. » Donc, il s'arrange pour commencer par le dernier, et donc le renversement en question est mis en scène ici. Voilà. Venant, ceux de la 11e heure reçurent chacun un denier. C'est intentionnel qu'il ait dit à un lecteur commence par le dernier, pour que les premiers soient témoins de ce qu'il fait aussi. Comme vous l'avez dit la fois passée, il aurait pu donner le premier leur dû. Et puis ils s'en vont tout contents, ils ne voient pas ce qui se passe avec les derniers. Non, non. Ils commencent par les derniers, et donc les autres voient. Et d'ailleurs, la réaction ne se fait pas attendre. Recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison en disant « Ces derniers ont fait une seule heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons enduré la lourdeur du jour et de la chaleur. » Répondant à l'un d'entre eux, il dit « Compagnon, compagnon, on verra ce terme revenir dans la... L'homme qui a oublié de mettre, en fait, il a négligé de mettre le vêtement de noces, compagnon, bon, mon ami, on traduit couramment dans la liturgie, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un denier. Donc, ce qui avait été convenu pour lui donner de nourrir sa famille, il l'a. Donc, il n'y a pas d'injustice par rapport au contrat initial. Ce qu'il y a, c'est plutôt une gratuité surabondante pour les derniers, ça oui. Bien. Je veux donner, et là on voit l'insistance sur le verbe vouloir qui va revenir à la suite. Je veux donner à ce dernier comme à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux en ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Là il dit clairement que le bon c'est lui, comme au jeune homme riche. Je suis bon. Ainsi, les derniers seront premiers, les premiers derniers. On a ici, chez Matthieu, une parabole qui lui est propre et où joue très fort une dynamique qu'on voit très présente chez Saint-Luc, c'est-à-dire c'est la dynamique du tiers. Des épisodes où il n'y a pas simplement deux personnes, Jésus et d'autres qui le sollicitent, un malade, quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui veut aller à la famille, mais un troisième personnage qui est témoin de ce qui se passe et qui n'arrive pas à... qui arrive difficilement à être d'accord avec la bonté de Jésus pour l'interlocuteur premier. Oui, et c'est pour ça que je dis dans Saint-Luc, vous avez des tas d'épisodes où ça joue comme ça. Hein? Pour le fils prodigue, par exemple, c'est un exemple typique, ce que le père fait pour le cadet, mais voilà que l'aîné, par un personnage, récrimine. Ce que Jésus fait pour Zachée en entrant chez lui, voilà que le personnage de la foule récrimine et n'est pas d'accord. Ce que Jésus fait pour la pécheresse qui vient en pleurs à ses pieds, voilà que le pharisien qui l'a accueilli récrimine en disant « mais qu'est-ce que c'est pour une affaire ?» etc. On pourrait, et c'est typique chez Saint-Luc. Si vous voulez, si vous êtes familier d'Internet, vous pouvez aller sur le site de la Nouvelle Revue Théologique et chercher un article, c'est facile à trouver, dans les archives, un article à mon nom que j'ai écrit autrefois, le tiers inclus. Parfois du tiers exclu en mathématiques, le tiers inclus, comment Jésus est le troisième personnage à entrer dans ce qu'il fait. Et ici, le troisième personnage, ben, c'est les ouvriers qui récriminent, qu'il veut associer. Jésus fait ainsi souvent, si je peux dire, d'une pierre deux coups. Non seulement il fait du bien au premier interlocuteur, mais il aide le troisième personnage à partager ce qu'il fait. Et ici, alors que c'est un schéma davantage présent, me semble-t-il, chez Luc, mais ici on a un bel exemple de cette manière de fonctionner également chez Matthieu et dans une parabole qui lui est propre. Ça c'est pour, je dirais, cette parabole des ouvriers de la 11e heure. Et puis nous voyons Jésus monter vers Jérusalem. Donc tout le thème du chemin est important dans cette... on monte vers Jérusalem, on approche de Jérusalem, on monte vers Jérusalem, on approche de Jérusalem au Mont des Oliviers, on entre dans Jérusalem et puis on entre dans le temple. Les choses avancent jusqu'au cœur du temple. Jésus monte vers Jérusalem pour le moment, et voilà les 12, il leur formule la troisième et la plus précise des annonces de passion-résurrection. Et là-dessus, comme souvent, comme à chaque annonce de passion-résurrection, il y a une réaction inappropriée. Hein, c'est Pierre qui dit, Seigneur, que cela intervienne. Ici, c'est le moment que choisit la Madame Zébédée, là, la mère des fils de Zébédée, pour demander que ses deux fils s'assoient à droite et à gauche de Jésus dans son royaume. De soi, c'est une belle demande. Elle voit que Jésus est le roi d'un royaume. Mais en attendant, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe? Nous le pouvons. Et Jésus ne les renvoie pas en disant, non, vous en êtes incapable. Non, il dit, ma coupe, vous la boirez. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous la donner. C'est pour ceux à qui c'est apprêté par mon Père. Les 10 autres s'indignent. Et Jésus en profite, donc il y a une sorte de troisième personnage, les 10 autres qui s'indignent, en l'occurrence avec raison, mais Jésus en profite pour tenir compte d'eux et les appelle auprès de lui, verset 25, pour un enseignement de manière générale pour tous les 12. Qui voudra être premier sera votre serviteur, car tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. On a parlé de retournement, basculement, mais il exprime ici, il annonce que c'est lui le premier qui vit ce retournement décisif en se faisant le serviteur jusqu'à l'extrême et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Puis on entre dans la section où on va avoir trois appellations de Jésus comme fils de David. D'abord, ce sont les deux aveugles le long du chemin. Vous voyez, il y a eu les deux disciples, Jacques et Jean, mais puis il y a deux aveugles, et puis il va envoyer deux disciples pour préparer son entrée à Jérusalem. Merci. Donc, des aveugles, que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est la même question qu'il a posée à la mère des fils de Zébédée. Que veux-tu? Et ben, son vouloir n'était pas tout à fait ajusté. Que voulez-vous que je fasse pour vous, Seigneur, que s'ouvrent nos yeux? Et Jésus est ému aux entrailles, touche leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent le regard et le suivirent. Et le suivirent, le thème de la suite de Jésus sur le chemin, hein, le nom riche dit, suis-moi, bon. Et bien, voilà que les aveugles écrits suivent Jésus. Il s'approche de Jérusalem. Il a monté vers Jérusalem, chapitre 21, il s'approche de Jérusalem. Jésus envoie deux disciples, l'épisode de la naissance, la non, etc. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. C'est comme s'il donnait d'avance à ses disciples la juste manière de le nommer. Ils ne vont pas dire notre ami Jésus, notre maître, le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Bon, et aussitôt il les renverra. Et ici commence alors une série de citations qui vont jouer un rôle de plus en plus important. Ceci est arrivé, ça c'est un commentaire au verset 4-5 du chapitre 21, commentaire de l'évangéliste. Ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète disant, hein, citation à l'accomplissement, comme on a déjà vu souvent, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. D'où est monté sur une ânesse et sur un ânon, fils d'une bête de sang. Donc celui qui s'avance, c'est le Seigneur, et un Seigneur de qualité royale. L'adjectif doux est un adjectif rare, c'est le même que Jésus a utilisé, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Et aussi, si on me souvient bien, dans la béatitude, heureux les doux. Bien, et on voit que le modèle de la douceur à travers la citation de Zacharie, c'est Jésus lui-même. Les disciples font, etc. Et cette fois-ci, c'est la foule qui précède et qui suit, qui crie en disant « Hosanna au fils de David !» Autre citation scripturaire, la foule l'acclame avec la citation du psaume 118. « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les hauteurs. » Hosanna, c'est devenu une acclamation. Au départ, c'est plutôt une invocation. Hosanna, sauve, nous t'en prions, littéralement. Sauve, nous t'en prions. Et puis, le sauveur qui entre dans la ville, et ça devient une acclamation, Hosanna, au fils de David. Puis on entre dans Jérusalem, verset 21, on s'approchait de Jérusalem. Maintenant, on entre dans Jérusalem, verset 10. Toute la ville trembla en disant qui est celui-ci, les foules disaient celui-ci est le prophète Jésus. Les foules vont reconnaître Jésus au moins comme un prophète et tout comme elles ont tenu Jean pour un prophète, on le verra plus loin. Prophète, hein, c'est l'épisode des vendeurs chassés du temple, leur table renversée, de nouveau citation. Cette fois-ci dans la bouche de Jésus. Elle a été dans la bouche du narrateur évangélique, puis dans la bouche des foules, ici le psaume 118, puis maintenant dans la bouche de Jésus. Citation, « Ma maison sera appelée maison de prière, Isaïe, or vous, vous en avez fait une caverne de brigands, allusion à Jérémie. » Et voilà que viennent auprès de lui, dans le temple, des aveugles et des boiteux et les soignants. Le fait que des aveugles et des boiteux entrent dans le temple, ça c'est un signe des temps messianiques. Les aveugles et les boiteux n'avaient pas accès au temple, ils étaient considérés comme impurs. Et que ils aient l'audace de venir auprès de lui dans le temple, ça annonce quelque chose de nouveau. Les grands prêtres et les scribes, voyant les choses admirables qu'il avait faites, l'adjectif admirable dans les faits veut dire étonnant aussi, admirable, étonnant. Qu'il avait faite, et les garçons criant dans le temple et disant aux amenant au fils de David s'indignaient. Tu entends ce que tu dis? N'avez-vous jamais lu, Jésus compose de nouveau l'écriture, de la bouche des tout petits et du nourrisson, tu t'es disposé une louange. Et le laissant là, il sortit hors de la ville vers Bethanie. On comprend que Jésus commence à être pris à partie, là, à propos de la manière dont on l'accueille comme fils de David. Il va venir, sous peu, la question de l'autorité par laquelle il agit, et notamment se permet de renverser les tables des marchands, etc. Donc Jésus, à ce moment-là, donc, Jésus s'est avancé, approché de la ville, entré dans la ville, entré dans le temple, et il se retire pour la nuit. Le lendemain matin, chapitre 21, verset 18, le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il voit un figuier sur le chemin, il vient, il ne trouve rien sur lui, sinon des feuilles seulement, et il dit que de toi n'arrive plus de fruits jamais. Pour l'homme. Quelqu'un m'a dit qu'il avait un figuier qui avait réussi à pousser un peu, et qu'un figuier, en fait, que je ne me trompe pas, il m'a dit, oui, donne des fruits avant les feuilles. C'est un art spécial, il donne des fruits avant les feuilles. Et donc, à ce moment-là, il aurait dû avoir encore des fruits, mais il ne trouve que des feuilles. Bien sûr. Alors, dans un autre évangile, ça joue comme figure de l'Israël stérile, qui ne donne pas le fruit qu'on attendait de lui. Ici, Jésus, chez Matthieu, ça joue un peu autrement, hein, ça joue comme une invitation à la foi. En vérité, parce qu'il se demande comment est-ce que subitement le figuier a séché, hein, en une nuit. Hein, si vous avez foi, sur le moment même, c'est pas, même pas pendant la nuit, le moment même, que de toi n'arrive plus de fruits, et le figuier se dessécha subitement. Alors, Jésus dit, si vous aviez de la foi, eh bien, non seulement vous ferez le geste du figuier, mais si vous dites à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, cela arrivera. Donc Jésus renchérit par une figure hyperbolique, exagérée volontairement, mais pour signifier la foi peut de grandes choses. Et tout ce que vous demanderez dans la prière en ayant foi, vous le recevrez. Jésus, alors, de nouveau vient dans le temple. Il est entré dans le temple, hein, la veille. Il a chamboulé les choses, il était acclamé comme fils de David. Il rentre dans le temple. Les grands prêtres et les anciens du peuple lui demandent « Par quelle autorité fais-tu ceci ?» Mais l'allusion au fait qu'il guérit dans le temple des aveugles, des boiteux, qu'il renverse les tables des marchands. Qui t'a donné cette autorité ?« Je vous interrogerai sur une seule parole. » Si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ceci. Donc Jésus a quand même déjà réfléchi à la question qu'il va leur poser. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des anges? De nouveau, hein, il y a des choses qui viennent de Dieu, du ciel ou des anges. Et comme on l'a vu plus d'une fois, Jésus veut faire comprendre que son sort est lié à celui de Jean, le précurseur et le précurseur du Sauveur. Et le Sauveur est annoncé par son précurseur. Et si on ne s'engage pas pour l'un, le précurseur, on ne voit pas pourquoi on s'engagerait pour celui qui l'annonce. C'est le raisonnement de Jésus. Hein? Eux calculaient en disant, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui? Si nous disons des hommes, le thème de la foi continue, hein? Si nous disons des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean comme un prophète. Répondant, ils disent, nous ne savons pas. J'essaie de se défiler, il piège parce qu'il sent bien que Jésus leur déclara, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ceci. Mais on va voir qu'il leur fait comprendre par quelle autorité il le fait, bien sûr. Mais c'est une manière de leur dire, vous n'avez même pas le courage de reconnaître le précurseur, d'avoir foi en sa parole. Eh bien, c'est inutile que je vous dise par quelle autorité je fais cela, parce que vous n'êtes pas prêt, vous donnez le signe que vous n'êtes pas prêt à croire à forcerie en celui qui a le précurseur à Moïse. Puis, une parabole des. On entre dans une série de trois paraboles, comme tu disais. D'abord, une parabole propre à Matthieu. L'homme qui a deux enfants, celui qui après avoir dit « je ne veux pas », mais plus tard se reprend assez loin et fait quand même ce qui lui était demandé. Et l'inverse, celui qui dit d'abord « moi, d'accord, Seigneur », mais finalement il ne va pas à la vie. lequel Dieu a fait la volonté du Père. Il commence à parler du Père ici. L'important, et le Père Adermakers a eu raison de le mettre en lettre capitale, plus tard, se repentant. Donc, il y a un plus tard encore possible. Il n'est pas encore trop tard. Plus tard, se repentant, eh bien, il se convertit. Et, de la même manière, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux, car Jean est venu par un chemin de justice. Vous, vous n'avez pas eu foi en lui, je viens de le prouver, mais les publicains et les prostituées ont cru en Jean. Ils ont eu foi. Mais en voyant cela, parce que vous avez été témoin de cela, vous, vous n'êtes pas repenti plus tard. Vous n'avez pas saisi le plus tard possible pour avoir foi. Cette expression va revenir alors dans la seconde parabole. Donc ça, c'était la parabole des deux fils. La seconde parabole, c'est la parabole des vignerons homicides. Vous vous souvenez, un homme planta une vigne, mit une clôture, construit tout, etc. C'est une expression tirée d'Isaïe, où la vigne désigne la vigne du Seigneur, hein, qui le déçoit en portant pas de fruits, etc. Mais il en prend soin, il la donne en location des vignerons, il part en voyage. Puis il est en train d'annoncer qu'il va partir en voyage. Il va être absent un temps. Il va disparaître à leurs yeux. Mais voilà, quand s'approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons prendre les fruits. Les vignerons battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent un autre. De nouveau, d'autres serviteurs, plus nombreux, ils firent de même. Plus tard, verset 37, tiens, l'expression revient. Plus tard, il leur envoya son fils. Voilà le plus tard décisif, la dernière plan de sa vie. En se disant, mais ils vont respecter mon fils, mais voyons le fils. Je suis le ciel héritier, allons tuons-le, nous verrons l'héritage. Ils le jetèrent dehors, hors de la vigne, et le tuèrent. Il va finir mort, hein, hors de la vigne. Quand viendra le Seigneur de la vigne? Donc c'était un homme maître de maison, ça devient un seigneur de la vigne. Vous voyez que régulièrement, il y a un glissement. Les personnages des paraboles deviennent figures du Seigneur même. Le Seigneur de la vigne, que fera-t-il à ses vignerons? Il les perdra. Il pourra aller à leur perte et donnera en location à d'autres vignerons qui eux remettront leurs fruits en leur moment. Et Jésus va rebondir sur leur réponse, mais il va d'abord chercher les Écritures et il revient au même psaume 118. Vous voyez que ce psaume 118 joue un grand rôle. C'est le psaume de l'entrée à Jérusalem, béni soit celui qui vient. Là, c'était le verset 26, et maintenant, on a les versets 22-23. La pierre qu'avaient éliminée les constructeurs est devenue la pierre d'angle. De chez le Seigneur, cela arriva, et c'est admirable à nos yeux. Donc, Jésus est en train d'annoncer son rejet, mais aussi qu'il va devenir la pierre d'angle dans sa résurrection. En raison de ceci, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, c'est plus simplement une vigne. Ça devient le royaume de Dieu. Vous sera enlevé et sera donné à une nation dans ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, entendant la parabole, comprennent qu'il dit ça à leur sujet, mais ils cherchent quand même à se saisir de lui, mais craignent les foules, parce que celles-ci le tenaient pour un prophète. Troisième parabole, celle des invités aux noces. Mais vous voyez, dans cette parabole des vignerons ici, ce qui me frappe toujours, c'est quand même le courage qu'a Jésus de mettre en scène, il est en train de mettre en scène sa propre mort qui approche, hein, en parlant d'un fils qui est jeté et tué. Quoi. Il parle, non pas d'un autre, hein, mais de lui. Alors, l'invité au festin des noces, qui se défile. Et même, donc c'est les noces d'un roi et pour son fils. On voit bien de quelle noce il s'agit. C'est les noces que Jésus s'apprête à vivre, les noces de l'agneau, pour le dire en termes d'apocalypse. Le roi fut irrité, et il mente ses troupes, et il fait périr ses meurtriers-là, incendie leur ville. peut-être une allusion à aussi la manière dont Jérusalem va être mise à sac. Il dit à ses serviteurs, l'annonce est prête, les appelés n'étaient pas dignes, et bien allez pour le chemin, tous ceux que vous trouverez, appelez-le vers les noces. Et ils assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et l'annonce fut remplie de gens attablés. Donc on n'attend pas que les gens soient parfaits pour les inviter, ils sont invités. Votre père fit le soleil et la pluie soient les méchants et les bons. On invite les méchants et les bons. Mais celui qui est méchant au départ, il doit quand même entrer un minimum dans l'esprit de l'annonce. Or, la coutume, c'est qu'à l'entrée d'un festin, vous receviez un vêtement, semble-t-il, de noces, quoi, une cape que vous revêtiez, ou une tunique, je ne sais. Ce qui est reproché à l'homme qui n'a pas le vêtement de noces, s'il se tait, c'est qu'il a voulu profiter de la fête, mais il n'accepte pas les conditions pour entrer dans l'esprit de la fête. C'est ça qu'exprime, je crois, le fait que... il n'a pas revêtu le vêtement de noces. Puis le jugement sévère, le roi, le servant, jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures, là sera le pleur et le grincement de dents, car beaucoup sont appelés et peu sont élus. Donc une finale, cette parabole, assurément sévère, et qu'on trouve que chez Matthieu, mais qui annonce, lorsque Jésus avertit durement, à travers des images fortes, c'est toujours comme un dernier appel à la conversion, et essayer d'éviter cela. Puis, après ces trois paraboles, trois mises en cause, on va terminer par cela, le triple piège tendu à Jésus. Le piège tendu par les pharisiens qui envoient de leurs disciples avec des hérodiens. Pharisiens et des hérodiens. Pourquoi ? Les hérodiens savaient qu'Hérode tenait son pouvoir de Rome. Devait être approuvé, cautionné par Rome. Donc, ils étaient plutôt favorables à payer un impôt à César. Les pharisiens, sachant que sur la pièce, il était mis au divin Auguste, ou même à Auguste, fils de Dieu, disaient, c'est un culte, payer l'impôt à César, nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Dieu, et eux n'étaient pas d'accord. Et donc, il faut un assemblage ainsi disparate pour essayer de coincer Jésus, parce que quoi qu'il réponde, il va mécontenter un des deux cas. Et Jésus les renvoie dos à dos avec une habileté souveraine. Pourquoi me tentez-vous ? Donc il a bien compris, démasqué, il le fait comprendre d'abord qu'il a démasqué leur intention. Pourquoi me tentez-vous ? Hypocrite ! Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Portez un denier, de qui est cette image-ci ? Et l'inscription, et comme je vous dis, on a trouvé des pièces où l'inscription manifestait un culte à Auguste comme divin. Eh bien, remettez les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. Il est peut-être César, mais il n'est pas divin. Et vous ne devez rendre culte qu'à Dieu même. L'entendant, ils l'admirèrent, pour avoir le sang, ils s'étonnèrent, vraiment, et le laissant, ils s'éloignèrent. Donc, premier piège que Jésus déjoue en remettant les choses en place et en voyant un peu d'ordre. Rendez à César ce qui est à César. Peut-être qu'il faut payer l'impôt, parce que l'administration romaine faisait de bonnes choses aussi, mais en attendant, n'allez pas rendre culte à César pour autant. Puis des Sadducéens. Donc chaque fois, les interlocuteurs, la question est à mettre en relation avec ceux qui la posent. Les Sadducéens, et l'évangéliste nous rappelle, ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc c'est pas pour rien, c'est eux qui posent la question. Pourquoi c'est Jésus ? Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt n'ayant pas d'enfant, son frère se mariera avec sa femme. C'est la loi du Lévirat pour donner une descendance. Et ils imaginent un cas vraisemblable, croyant coincer Jésus en lui disant, mais alors quand ils sont tous morts, y compris la femme, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle la femme, car tous l'ont eu. Vous vous égarez, ne sachant pas les Écritures et la puissance de Dieu. Il répond en deux temps. D'abord, votre type d'argument ne vaut pas, parce que votre type d'argument, il consiste à projeter dans l'au-delà la situation présente. Or, sachez qu'à la résurrection, on n'épouse pas, on n'est pas donné comme épouse, ils sont comme des anges dans le ciel, non pas qu'ils n'aient pas été mariés sur terre, mais c'est plus la logique qui prévaut dans l'au-delà. Et puis, il répond, après avoir démonté l'argument, en disant c'est pas un argument, voilà, que d'extrapoler de notre situation présente à ce qui se passe dans l'au-delà, il répond au fond de la question. Hein? Au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui leur fut dit par Dieu qui dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham ». Jusque-là, on a cité les prophètes, Dieu qui parle aux prophètes, ici, hein? On entend parler Dieu directement. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Jésus ne fait pas tant de tirer argument de l'Écriture que de donner une interprétation plus profonde de la manière dont on comprenait cette expression « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », ça veut dire qu'ils sont encore vivants devant sa face. Je suis le Dieu, non pas qui fut le Dieu d'Abraham en son temps, mais le Dieu d'Abraham qui est vivant présentement, d'Isaac, de Jacob, qui demeure dans ma vie. Et c'est en ce sens-là qu'il dit « Il n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. » Et donc, ils sont déjà pas dans la vie de Dieu. L'entendant, les flous, les questions de son Seigneur. Il y a d'autres choses à dire, mais je viens pour terminer au troisième. Les pharisiens, entendant qu'il avait fait taire les sadducéens, croient qu'ils vont faire mieux pour coincer Jésus. Mais non. Un l'interroge en le tentant, maître. Quel est le plus grand commandement dans la loi? De soi, c'était une question légitime, mais c'était une question disputée entre les pharisiens. Hein? Mais l'évangéliste précise que c'est de nouveau pour mettre Jésus à l'épreuve. Leur intention n'est pas droite. Jésus déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça c'est dans le Deutéronome, donc le passage du Décalogue. Celui-ci est le plus grand et premier commandement. Mais un deuxième lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et là, comme il l'a déjà fait, il va chercher dans le Lévitique. À ces deux commandements, la loi tout entière est suspendue, et les prophètes. La loi et les prophètes, ça veut dire l'entièreté de la révélation biblique. Et on a vu déjà cette expression à propos de la règle d'or, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, mais surtout fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. En cela se résume toute la loi et les prophètes. On a vu dans le sermon sur la terre. Ça revient ici. Et puis Jésus, et on termine par là, dit, après avoir répondu à ces questions, et avoir, je dirais, tenu tête à ceux qui voulaient le coincer, Jésus pose lui-même une question. Il les interroge. Que vous semble-t-il au sujet de Christ? De qui est-il le Fils? Ils disent, de David, le Messie attendu, est-il attendu comme fils de David? Il leur dit, comment donc David, dans l'Esprit Saint, l'appelle-t-il Seigneur en disant? Et là, il cite un autre psaume décisif, le psaume 110, qui dans l'annonce de la résurrection détermina, y compris tous les dimanches soirs dans l'office. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, sois assis à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Donc David, Jésus précise, dans l'esprit. Comment donc David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Donc il nous dit, attention, là David a été bien inspiré en s'exprimant comme ça. David dit, le Seigneur, comprenons, le Seigneur, mon Dieu, a dit à mon Seigneur le roi, ou le Seigneur le Messie, le Seigneur mon successeur, sois assis à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Et de fait, le palais royal était à la droite du temple. Parenthèse, sois assis à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis. Si donc David l'appelle Seigneur, non? Dit, David a dit, le Seigneur mon Dieu a dit à mon Seigneur le Messie, alors est-il son fils ou son Seigneur? Il est les deux. Jésus est en train de faire comprendre, certes le Messie, le Christ, il est fils de David, mais il est en même temps Seigneur de David, parce qu'il est fils de l'un peu plus grand que David, il est fils de Dieu. Et il mérite le même titre de seigneurie qui est proprement divin que le Seigneur Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit le Seigneur, c'est le Seigneur Dieu d'Israël. Et puis dans l'Évangile, ça devient le Seigneur Jésus. C'est son titre de divinité. Donc le Seigneur, mon Dieu, a dit à mon Seigneur, l'Esprit a inspiré à David de s'exprimer de telle manière qu'il comprend, il pressent que le Christ, successeur de David, ce n'est pas simplement fils de David, mais fils de Dieu, et méritant le titre d'un Seigneur. Vous voyez un peu l'argument sur lequel il fait réfléchir. Et finalement, il conclut toutes ces controverses sur la question décisive de son identité. Par quelle autorité fais-tu cela ? La réponse est ici, c'est son autorité seigneuriale. Pas simplement de fils de David, mais de fils de Dieu. Voilà, j'étais un peu plus long, c'était pour boucler un ensemble. Merci de votre attention.